Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier, bonjour à tous.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Chères auditrices et auditeurs d'Asialogie et de Radio Alpa, vous pensiez échapper au phénomène Squid Game, mais impossible.
D'accord, une fan.
456. Bienvenue dans ce nouveau jeu.
Alors, dans ce 24e épisode d'Asialogie, on ne va pas vous épargner. Nous allons envisager cette série, sans spoiler, je le précise,
J'espère.
Sous un angle socio-philosopho-éthique.
Ah oui.
Non, pas de spoiler, Didier.
D'accord.
Non, bien évidemment, on va parler du thème.
J'imagine.
Mais je ne vais pas parler de l'histoire.
D'accord.
Puis, pour nous apaiser, Didier, tu vas nous expliquer ce qu'est le wabi.
Ah là, oui, sabi. Je vais vous apaiser, là.
Et bien sûr, à ne pas confondre avec le wasabi. C'est vrai? Ça m'a étonné, ça, le wabi-sabi.
D'accord.
Non, et wasabi, ça doit venir de là, je suppose.
Ah, je ne sais pas. Là, j'avoue.
Faudrait qu'on pose la question à,
ouais, là, ça,
à quelqu'un
tu me poses une colle, là.
Qui connaît bien le japonais.
D'accord.
Ou alors, on recherchera.
Alors, donc, nous voilà donc au cœur du sujet.
Oui.
Et alors, le sujet, donc tout le monde l'a bien compris, comment est née cette série dont tout le monde parle, Squid Game ?
Alors tout d'abord, il faut savoir que Squid Game est devenu un phénomène mondial dès sa sortie sur Netflix en septembre 2021.
D'accord.
Son créateur s'appelle Hwang Dong-hyuk, un réalisateur et scénariste sud-coréen connu pour ses films tels que Silenced en 2011 et Miss Granny en 2014. Alors, il n'est pas très connu, mais
moi, je suis passé à côté.
On est passé à côté. Bah, Silence, c'était très connu quand même.
Peut-être.
C'est une histoire d'enfants, une histoire vraie d'enfants sourds qui ont été abusés. Et il a dénoncé ça dans son film. Mais bon, il n'a pas fait beaucoup de films et vous allez comprendre pourquoi.
D'accord.
Avec Squid Game, il souhaitait explorer les thèmes de l'inégalité sociale et des dilemmes moraux. Et il s'est inspiré de sa propre vie, Hwang Dong-hyuk.
Ah oui.
Voilà, et son idée remonte à 2008. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il
c'est
y vrai, pense.
C'est pas tout neuf, ça.
Alors, 2008, hein, il vivait avec sa mère et sa grand-mère dans un état de très grande précarité.
Ok.
Voilà, et c'est sa propre expérience de pauvreté et d'insécurité économique, les inégalités croissantes aussi en Corée du Sud et les événements sociaux qui ont alimenté son travail de scénariste.
Ah, très bien. Bon, du coup, quelles sont ses autres inspirations ou influences, alors ?
Alors, avant la vague Hallyu, dans les années 2000, il y avait la vague de la culture japonaise avec les mangas et les animés, bien sûr.
On est d'accord.
Et Hwang Dong-hyuk n'a pas échappé, bien sûr, à ça. Il était jeune à l'époque. Et il a été aussi influencé par des œuvres de survie célèbres hein, qu'on connaît bien, comme Battle Royale. Et puis, un manga qui s'appelle Kaiji, centré sur des personnages pris dans des jeux mortels pour effacer leurs dettes aussi.
Okay.
Alors, ces œuvres partagent des thèmes similaires de désespoir, de manipulation et de survie dans des situations extrêmes, car ce n'est pas d'aujourd'hui que les pauvres sont pauvres et que les jeux sont le rêve d'une autre vie.
C'est
bien
certain.
Sûr. Et il y a aussi, bien sûr, des films américains qui ont repris ce thème, comme Hunger Games. Mais Squid Game a quelque chose d'original et d'unique.
D'accord.
C'est le mélange de la réalité et de la dystopie.
Oui.
Au travers de jeux d'enfants quasi universels, le tout dans un très joli décor pastel.
D'accord.
Avec une BO géniale et dérangeante, complètement décalée.
Ok. Bah, du coup, le réalisateur a donc mis plus de 10 ans alors pour.
C'est pour ça qu'il n'a pas fait beaucoup de films,
série.
Didier.
Okay.
Mais oui.
Mais pourquoi ?
Alors, comme je vous le dédie, en 2008, Hwang Dong-hyuk vivait dans la précarité et sans argent, difficile de réaliser quoi
c'est
que
certain.
Ce soit.
Le cinéma, c'est pas gratuit. Enfin, le cinéma, la série, la télé, c'est pas gratuit.
C'est pas gratuit, voilà. Alors, il a écrit le scénario entre 2008 et 2009 et il a essayé de vendre Squid Game à diverses sociétés de production. Mais le concept a été rejeté à plusieurs reprises pendant près de 10 ans.
Peut-être trop tôt.
Voilà, jugé trop violent, irréaliste, d'accord, trop sombre pour le public de l'époque. Okay. Et c'est bien sûr l'essor des plateformes de streaming et la popularité du cinéma coréen en salle. Et aussi la pandémie de Covid-19, qui ont rendu le public plus réceptif, je dirais accro aux séries, on peut le dire, à la suite du Covid ou pendant le Covid. Et donc réceptif à ce type de série qui explore des thèmes de survie, d'isolement et de désespoir économique. Wang a donc retravaillé l'histoire pendant plus d'une décennie avant que Netflix accepte le projet. Donc il a eu le temps de le peaufiner.
Bien sûr. Alors, du coup, dis-moi Corinne, que dénonce Squid Game ? À quelle réflexion cette série veut nous amener en fait ?
Alors le réalisateur s'inspire des inégalités socio-économiques qu'il a vécues, des luttes qui touchent la société coréenne, mais aussi des problématiques mondiales liées à l'endettement, à la compétition, à l'éthique dans un système capitaliste.
Ouais.
Il faut savoir que l'endettement des ménages coréens est l'un des plus élevés des pays de l'OCDE.
Ah oui ?
Oui,
d'accord.
Comme les États-Unis aussi.
Okay. Hein.
Et que beaucoup se retrouvent pris au piège des dettes écrasantes à cause des frais d'éducation et de scolarité élevés.
C'est ça.
Ça coûte très cher.
Ben, hein. Bien sûr.
Et le coût exorbitant de l'immobilier dans les grandes villes et la précarité de l'emploi. Et tout ça, ça rend la vie bien difficile.
Hein. J'imagine
c'est,
bien. Oui.
C'est en Corée, mais c'est bien ailleurs aussi.
C'est certain.
Alors, dans Squid Game, presque tous les participants du jeu, puisque tout le monde sait que quand même que Squid Game, c'est
jusque
un
là,
jeu,
ça va.
Sans spoiler,
c'est ça,
ont accumulé des dettes insurmontables qui les forcent à prendre des décisions désespérées, comme participer à un jeu mortel pour tenter de s'en sortir.
Ouais.
Alors, en Corée du Sud, comme dans beaucoup de pays riches, il y a une forte disparité entre les riches et les pauvres, et en particulier les jeunes générations, qui ressentent un profond sentiment d'injustice devant un système éducatif ultra compétitif.
Oui, je vois.
Et bien évidemment, ça favorise les enfants de familles riches.
Bien sûr, ils peuvent payer les frais de scolarité.
C'est ça, et puis surtout les
des
cours privés.
Supplémentaires privés, oui, bien sûr.
Après la classe, il y a la classe encore.
C'est ça. Ouais.
Et bien évidemment, donc, c'est souvent les enfants de familles riches qui vont réussir.
Et oui.
Et ça empêche l'ascenseur social
oui,
de fonctionner.
Ça limite forcément, oui, bien sûr.
Ça limite. Le système éducatif est très bien en Corée, mais si il y a la surenchère permanente de monter le niveau les cours privés,
je comprends.
L'ascenseur social ne peut pas fonctionner.
C'est certain.
Alors dans la série, cette fracture est représentée par la diversité des participants qui viennent de toutes les couches de la société, y compris des couches de la société aisée dans Squid Game.
Okay.
Et la culture de la compétition y est illustrée par les jeux eux-mêmes. Mm-hmm. Les participants doivent éliminer leurs concurrents pour survivre. Et ça reflète la version extrême de la lutte pour la survie sociale.
D'accord.
Alors moi, je propose qu'on écoute un petit morceau encore de la BO de Squid Game. On va s'immerger, on va écouter une chanson que j'adore qui s'appelle Fly Me to the Moon.
D'accord.
Mais elle est complètement un peu décalée dans son usage.
Ok. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. You're not the retour sur Asialogie.
Elle est bien cette version,
elle
non ?
Elle est rigolote.
Ça décoiffe un peu.
Moi, je connaissais les autres versions, plus crooner, mais ok.
Ah bien sûr, mais là,
Alors, je dois avouer...
Je vais pas spoiler.
Mais... Non, mais non, mais je dois avouer aux auditeurs, c'est que je n'ai pas vu la série. J'étais
Quelle
pas.
Chance tu as de ne pas l'avoir vue.
C'est ce que j'ai cru comprendre parce que toi, tu es une fan et je pense que tu m'as conquis. Je vais tenter l'aventure. Alors, du coup, revenons à la série Radio Alpa, qui donc par rapport à Squid Game, comment expliquer cette fascination du jeu, Corinne?
Oui, cette fascination du jeu, cette fascination pour la série.
C'est ça.
Alors en Corée du Sud, il n'y a pas que là-bas, mais là ça se passe en Corée du Sud,
oui.
Les jeux de hasard et de paris sont interdits.
Ah,
largement,
ah, oui.
Pas tous, mais beaucoup okay. Quand même.
D'accord.
Mais ça existe vraiment bien et ça attire un grand nombre de personnes désespérées et exploitées, on s'en doute. Et dans Squid Game, cette fascination pour les jeux est exprimée par l'idée de tout ou rien.
Okay.
Les participants misent leur vie pour une chance de remporter le gros lot.
Mmh.
Alors, entre du pain et un ticket à gratter, c'est le ticket qui gagne.
Okay.
Voilà. Et on sait aussi que la précarité entraîne de l'isolement social,
ouais,
en particulier chez les personnes âgées et les jeunes.
Mmh.
Et donc, dans Squid Game, beaucoup de personnages sont des personnes isolées ou déconnectées de leur entourage. Parce
d'accord.
qu'ils sont, je dirais, désespérés de la vie, quoi.
Ouais, ouais, d'accord.
Voilà.
Bon, alors, est-ce qu'on peut dire que Squid Game, c'est une critique du capitalisme exacerbé?
Oui, moi je dis oui,
ouais,
oui,
ouais,
oui,
d'accord.
Sans hésiter.
Okay.
Squid Game est une allégorie du capitalisme à l'extrême,
okay.
qui montre l'exploitation des pauvres pour un divertissement. Mais surtout, la série décrit en fait une élite insensible et déconnectée des réalités des mm-hmm. classes populaires. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment... Alors, c'est exacerbé.
Ouais,
c'est,
bien sûr, j'imagine.
C'est une allégorie, comme je vous disais, Squid Game.
Ouais.
Mais l'idée, elle est celle-là, c'est d'écrire une élite insensible
mmh.
et la série fait réfléchir sur l'éthique d'un système mmh. qui met l'argent au-dessus de tout.
Ouais.
Alors en toute objectivité, je dirais que Squid Game est non seulement le reflet de la société coréenne, mais celui d'une grande partie du monde.
Ça, oui, je suppose.
Ah. Pauvreté, dette, inégalité, exploitation, harcèlement qui sont incarnés par tous ces personnages, tous ces héros, je dirais.
Okay.
Et autre chose, le héros, le personnage principal de la série qui s'appelle ouais. Song-gi. Gi-hun
oui.
ne vient pas complètement de nulle part.
Ah.
Les raisons de sa présence dans le jeu viennent de son histoire personnelle qui est reliée à une faillite bien réelle.
Ah oui ?
Celle de l'usine Sanjong Motor
oui.
qui l'employait. Ah, ça, c'est dans la série, hein, le
oui,
héros. Donc, il est fictif, bien
oui,
sûr.
Oui,
mais l'histoire
bien.
De l'usine, elle est bien réelle.
D'accord.
Et bien sûr, donc, le héros a été licencié
oui,
sans indemnité. Et ça, c'est très bien évoqué dans la série.
D'accord. Bah alors, dis-moi plus un peu sur l'histoire de cette faillite d'usine, s'il te plaît.
Oui, alors c'est l'histoire banale des faillites d'usine. Hein.
Oui.
L'usine Sangyong Motor existait depuis... Enfin, elle existe, parce qu'elle existe toujours.
D'accord.
Depuis 1954, et elle a eu bien des problèmes.
Mm-hmm.
Donc, elle est située dans une ville qui s'appelle Pyeongtaek, à 65 km au sud de Séoul.
Ouais.
Cette ville, c'est un centre industriel majeur, avec des bases militaires américaines
mm-hmm.
et des installations portuaires. Elle était devenue l'une des principaux constructeurs automobiles de Corée du Sud,
d'accord.
derrière Hyundai et Kia,
ah oui.
cette Sangyong Motor.
Okay.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est la crise financière asiatique de 1997 qui l'a affectée mm-hmm. profondément avec l'économie européenne dans son ensemble.
Ouais.
Et la dette accumulée que cette entreprise avait,
ouais.
la concurrence,
oui.
L'ont poussée à se restructurer pour survivre sans vraiment de réussite.
Ah, en plus.
Alors, c'est l'un des événements sociaux
ouais.
les plus marquants de l'histoire de l'usine.
Oui.
C'est la grève de 2009 qui est
d'accord.
devenue un symbole des luttes syndicales et des conflits sociaux mm-hmm. en Corée du Sud.
D'accord.
Et Ji-hoon, le héros de Squid Game, était l'un de ces grévistes de
okay.
2009 concerné par un plan de restructuration qui incluait quand même 2600 suppressions d'emplois.
Ah oui, tout de même. Oui, comme tu dis.
Oui, avec soit 36% des ouvriers.
Ah oui, oui, quand même.
Et le tout dans un contexte de crise économique mondiale.
Et oui.
La grève, il faut savoir qu'elle avait quand même duré 77 jours, faisant de cet événement l'une des luttes syndicales les plus longues et les plus intenses de l'histoire récente.
Parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient tellement dans des mouvements grévistes.
Mais non,
hein,
ce n'est pas leurs habitudes. Hein, voilà.
Mm-hmm.
Et il y a eu des terribles affrontements contre les forces de l'ordre avec de nombreux blessés.
Ah oui.
Donc voilà, donc le héros de Squid Game, il vient de cette histoire-là
J'entends
aussi.
J'entends bien.
Hein.
Et du coup, Quelles ont été les conséquences de cette grève ?
Ben, malgré la grève, le plan de licenciement a été mis en œuvre. Mmh. Et ça a bien sûr affecté des milliers de familles.
D'accord.
Il y a eu beaucoup d'ouvriers licenciés qui ont souffert de dépression. Il y a eu beaucoup de suicides aussi.
Oui.
Voilà, donc cet événement, c'est donc devenu un symbole de la résistance contre les suppressions d'emplois, ouais, et les conditions précaires imposées par les grandes entreprises. Et ça fait quand même un peu évoluer les conditions de travail.
Mmh.
Alors la lutte, oui, oui. Et la lutte a continué après la grève. Et en 2018, après des années de mobilisation, tu te rends compte,
ouais,
des années
2018, oui,
certains travailleurs licenciés en 2009 ont été réintégrés.
Ah oui.
Oui.
D'accord.
Ils se sont battus longtemps.
Je vois
mais
ça.
Aujourd'hui, malgré les aides gouvernementales, c'est une usine qui est toujours en difficulté.
Ok, à suivre donc.
Voilà, donc pour terminer, je vais vous recommander un petit livre que j'ai,
oui,
acheté, que je suis en train de lire,
ah,
de Louise Massard. C'est une philosophe, c'est un petit livre qui vient de sortir aux éditions Omake Books.
Ouais.
On le trouve partout, normalement.
D'accord.
Ça coûte 9,90€ et ça s'appelle Squid Game, petites histoires et grands secrets.
Ah, donc voilà. Si on veut aller plus loin, ok, on a une piste.
On a une piste.
Parfait.
Et on en reparlera peut-être de Squid Game.
Écoute,
en tout cas, je n'ai rien spoilé.
Ah, oui, j'entends bien.
T'es d'accord ?
Oui, je suis d'accord.
Bon, je te propose une pause musicale,
oui,
Didier, un truc un petit peu cool pour,
oui,
nous remettre de tout ça.
Oui.
Ça s'appelle Sakura Movie.
D'accord.
Et c'est Komachi et Uyama Hiroto. C'est japonais avant le wabi-sabi.
Allons-y.
Bah Didier, merci pour Sakura Movie de Komachi et Uyama Hiroto.
Un petit peu jazzy, c'est,
oui,
sympa.
Moi j'ai beaucoup aimé.
Ouais.
C'est vrai qu'on passe pas assez de jazz.
Ah bah écoute.
On va en passer un peu plus.
On a encore des émissions, tout va
on
bien.
On a encore des émissions, oui. Bon Didier, parle-nous,
oui,
du Wabi Sabi. Qu'est-ce que c'est ?
Ah, ah.
Qu'est-ce que c'est ?
Eh oui. Donc, alors, le Wabi Sabi. Alors c'est un concept esthétique, hein, et philosophique japonais.
Ah oui, on s'en doutait.
Voilà. C'est pas vraiment une surprise, profondément ancré dans la culture traditionnelle. Alors, il célèbre la beauté de l'imperfection, l'impermanence et la simplicité. Il est issu du bouddhisme zen et valorise l'authenticité, l'humilité et la connexion avec la nature. Ce que l'on trouve dans l'habitat traditionnel. Le terme wabi-sabi combine deux notions complémentaires. Alors, wabi qui est renvoyé à la solitude des ermites, avec le temps, le sens a évolué pour exprimer une appréciation des choses simples, modestes, naturelles. Aujourd'hui, en fait, Wabi représente la simplicité, la tranquillité et la beauté des choses humbles ou ordinaires.
Rien à voir avec le wasabi.
Ah non, là, non. Ça pique moins, a priori.
Ah oui.
Donc, alors, le terme sabi fait référence au temps qui passe, à la patine des objets et à la sérénité et à la beauté qui émanent des choses vieillies ou usées par la dégradation naturelle.
Est-ce que ça fait référence aux personnes aussi, non ?
Je ne sais pas. Ah, j'avoue, je ne sais pas. Peut-être. Ensemble, donc, Wabi Sabi valorise une esthétique qui accepte les défauts, la rusticité et la nature éphémère des choses.
C'est joli.
Oui.
Alors, quels sont les principes fondamentaux de ce principe Wabi-Sabi, Didier ?
Alors, comme vous l'aurez compris avec l'introduction que je viens de faire, l'imperfection.
D'accord, c'est oui, l'imperfection.
C'est ça, le Wabi-Sabi trouve la beauté, en fait, dans ce qui est incomplet ou asymétrique, contrairement à la recherche de la perfection ou de la symétrie dans les cultures occidentales. Le Wabi-Sabi valorise les irrégularités, les fissures, les défauts.
C'est vrai, c'est bien ça.
Alors, oui,
comme idée.
On n'est pas toujours là-dedans. Hein.
Non.
Puis il y a le fameux concept de l'impermanence inspiré du bouddhisme qui reconnaît que tout est éphémère, la vie, la nature, les objets. Cette idée nous encourage à apprécier le moment présent et à voir la beauté dans le vieillissement. Alors, bon, la simplicité et l'intimité, le wabi-sabi privilégie les formes simples et dépouillées en rejetant le superflu ou l'ostentation. On en est vraiment pas, très très loin. Il valorise une esthétique minimaliste et naturelle dans une ambiance calme et sereine pour favoriser l'introspection.
Alors Didier, donne-nous des exemples pour voir et appliquer le wabi-sabi, parce que c'est bien intéressant comme concept quand même.
C'est
on
clair.
En a sûr beaucoup besoin, je trouve.
Sûrement,
là.
Oui. Ah. Alors, c'est simple, c'est la céramique et l'artisanat, comme le kintsugi, qui illustre parfaitement le concept de wabi-sabi. Alors, le kintsugi, c'est l'art de réparer des céramiques brisées avec de l'or.
Ah.
Alors,
oui, c'est magnifique.
J'ai déjà vu ça,
ça.
Dans des émissions, on voit donc les fissures,
oui,
en fait, réparées de l'objet.
Notre artiste en lac qui était venue,
oui.
elle fait du kintsugi.
Ah, d'accord.
Oui, avec une céramiste sartoise.
Ça y est, maintenant que tu me le dis. Oui. Et donc, en fait, réparer l'objet cassé, en fait, c'est pas dissimulé, mais mis en valeur en transformant l'imperfection en beauté avec cet or. Il y a aussi la cérémonie du thé, au cours de laquelle les objets utilisés comme les bois sont souvent simples, faits à la main, avec des irrégularités, des textures
brutes.
Oui,
pour les... Oui.
On est dans la simplicité et, bien sûr, l'architecture traditionnelle japonaise.
Alors, en quoi les maisons traditionnelles japonaises sont wabi-sabi, Didier ? Alors, tu viens nous parler de l'architecture, là.
Oui, je t'explique. Parce qu'elles mettent en avant des matériaux naturels, comme le bois ou le bambou,
ouais,
et des lignes simples.
C'est vrai.
Avec un respect pour les marques laissées par le temps, elles sont entourées de jardins qui privilégient des éléments naturels, comme des rochers, de la mousse, du sable.
Tu nous avais déjà parlé
de ça.
On
en a parlé, ça.
Oui.
Et respectant le spontané de la nature. Alors, les maisons traditionnelles, selon le wabi-sabi, sont volontairement épurées, dépouillées de tout artifice ou décoration inutile. On va au plus simple. Hein. Chaque élément de l'espace a une fonction.
Je comprends bien.
Les ornements sont minimalistes et souvent naturels, comme une branche d'arbre ou un vase en terre cuite, etc. L'espace vide est crucial. Le vide est utilisé pour équilibrer et mettre en valeur les éléments présents.
Oui, on a du mal à supporter le vide en Occident. Enfin, on avait du mal.
Oui,
ça évolue un peu quand même.
C'est certain.
Alors, quels sont les matériaux utilisés ? Tu nous en as un petit peu parlé, mais
alors,
dans les
oui,
maisons, les fabriques...
Les matériaux utilisés,
oui,
en fait, dans les maisons traditionnelles, sont toujours d'origine naturelle. En fait, c'est aussi très très nature tout ça, avec une préférence pour ceux qui montrent des signes d'usure ou de vieillissement.
Oui.
On utilise le bol brut, le bois pardon, brut pour les poutres, le mobilier, les sols, le bambou, le washi, le papier de riz utilisé
pour
les portes coulissantes pour diffuser une lumière douce et naturelle.
Ah oui, c'est chouette ça.
Ouais, ça, moi, ça, voilà, là, j'ai envie d'y aller dans cette maison. Pour les murs intérieurs, ce sont l'argile, la terre, enfin, on est toujours dans la nature, et des textures irrégulières pour les sols, les pierres ou galets qui seront aussi des éléments décoratifs. En fait, l'habitat wabi-sabi est conçu pour être en symbiose avec la nature environnante, en floutant les frontières entre l'intérieur et l'extérieur, avec l'installation de portes coulissantes en papier et de grandes fenêtres sur le jardin, ce qui nous permet de profiter
rêver, là,
de la lumière, des sons, comme ceux du vent et de la pluie. Oui, parce que là, on a eu pas mal de périodes de pluie, donc oui, ça me fait un peu rêver.
Oui, mais tu sais, il y a les espèces de gouttières là, qui font des bruits.
Oui, oui, c'est vrai.
Là, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ah, je ne sais pas, mais je
sais qu'on en trouve.
On en trouve, c'est très esthétique.
Et ça fait un joli bruit quand
ça
la pluie tombe.
Alors,
comment est aménagé l'intérieur, Didier ?
Alors, passons à l'intérieur. Comme quelque chose d'important, contrairement aux maisons occidentales, les maisons wabi-sabi ne cherchent pas à paraître éternelle ou à rester neuve. Au contraire, pour elle, on accepte la dégradation naturelle des matériaux. Ces maisons ont un confort humble pour inviter à l'introspection. Les pièces sont souvent petites et conçues pour favoriser une ambiance intimiste avec un éclairage doux et tamisé pour une atmosphère chaleureuse et apaisante. Il y a des éléments caractéristiques. D'abord, le tokonoma.
Ah oui.
C'est une niche donc décorative dans la pièce principale. On y expose des objets symboliques, un rouleau calligraphié, une céramique artisanale avec une branche de fleurs. Enfin, il y a les sols aussi en tatami. Et oui, les tatamis sont des sortes de nattes en paille épaisse et tressées qui constituent les revêtements pour les chambres et les salons. Alors, leur texture naturelle, leur odeur ajoute une dimension sensorielle en fait, à l'espace. Alors,
pour on ne se rend pas compte de tout ça. Hein.
Oui, non. Pour info, la dimension d'un tatami, en fait, c'est de 1,80 m par 90 cm.
D'accord.
Donc, en plus, les maisons wabi-sabi comportent parfois une salle de thé. Dédiées à la cérémonie du thé, ces salles sont petites et modestes, conçues pour mettre les participants, dans un état de quasi-méditation. On y est proche, là.
Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que le wabi-sabi nous influence dans la conception de nos maisons en Occident, maintenant, Didier ?
Oui, on est très, très influencés. Les principes du wabi-sabi sont souvent intégrés dans les designs minimalistes et contemporains. On utilise de plus en plus dans l'architecture intérieure des matériaux bruts, comme le béton, le bois, la pierre naturelle. Et pour la déco, on privilégie des objets artisanaux, des textiles simples, des teintes douces comme les beiges, les gris, les tons terreux. On construit des maisons qui bénéficient de la lumière naturelle, de textures organiques, avec des espaces dépouillés. On vit un retour à la simplicité sans savoir qu'on devient de plus en plus wabi-sabi en Occident.
Ça, c'est drôle.
Voilà. Oui. Bon, alors notre époque est marquée par la consommation à outrance, la compétition. Alors le wabi-sabi représente un contrepoids salutaire. Il nous pousse à ralentir, à valoriser le beau, le fait main et à redécouvrir la nature, l'authenticité, une vraie philosophie.
Bon, Didier, c'est fini.
Je savais que j'allais lire ça.
Je ne sais pas si c'est wabi-sabi, mais c'est fini en tout cas. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, chères auditrices et auditeurs, jeudi à midi, samedi à 9h30.
C'est ça, on compte sur vous.
En podcast, bien sûr, sur notre page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Radio Alpa 107.3.
Et toujours avec grand plaisir.
À la semaine prochaine. Salut à tous.